Merci Sonia et bonjour à tous. Cette émission a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Vanessa Nadjar et Anne de Pelchin. Aux manettes, Marie-Claire Oumabadi. Et aujourd'hui, on bouscule le capitalisme avec Thomas Piketty.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Son Capital au XXIe siècle s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires. On y apprenait que les inégalités faisaient leur grand retour dans les pays industrialisés depuis les années 80 et que l'héritage avait retrouvé l'importance qu'il avait au temps du père Goriot. 6 ans plus tard, la réflexion de Thomas Piketty s'est déplacée des inégalités au discours qui les accompagne et qui les justifie. Voilà pourquoi son dernier ouvrage s'intitule « Capital et idéologie » et nous avons une heure devant nous pour en parcourir en sa compagnie les 1200 pages érudites. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Bonjour Thomas Piketty.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, profession économiste, c'est le titre de notre série cette semaine. Demain, nous recevrons l'ancien économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard. Puis nous accueillerons autour de la table Stéphanie Stancheva, qui a remporté le prix du meilleur jeune économiste 2019. Mais d'abord, c'est Karl Marx que nous allons entendre, ou plus exactement un extrait de son manifeste du Parti communiste.
L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurande et compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés, en opposition constante ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée. Une guerre qui finissait toujours ou par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, ou par la destruction des deux classes en lutte. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer aux anciennes de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte.
Un extrait lu par Marguerite Caton de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. L'approche historique de Marx est aussi la vôtre, Thomas Piketty, dans Capital et idéologie, comme dans votre ouvrage précédent, Le Capital au XXIe siècle. Pourquoi ce choix ?
Moi, je suis venu à l'économie, en fait, pour me rapprocher de l'histoire d'une certaine façon des sciences sociales, c'est-à-dire que j'avais envie d'étudier dans leur développement historique l'évolution de la répartition des richesses dans les différentes sociétés. Je pense que l'économie s'est trop détachée des sciences historiques, des sciences sociales, et cette dimension morale, sociale de l'économie me semble essentielle, et j'essaye de contribuer à la remettre sur scène.
Ce que vous avez voulu montrer dans Capital et idéologie, c'est le fait qu'il n'y a pas de fondement naturel aux inégalités, et pour cela il fallait une approche pluridisciplinaire, donc à la fois convoquer l'histoire mais aussi la sociologie.
Oui, tout à fait. Le passage par l'histoire permet de montrer la très grande diversité des trajectoires des sociétés humaines en termes de niveau d'inégalité, de façon de résoudre les problèmes sociaux, les problèmes de dette publique, les problèmes d'accumulation, qui sont pas des questions nouvelles, qui sont des questions qui sont là depuis plusieurs siècles. Et trop souvent, l'approche purement économique va regarder, voilà, les 10 dernières années, les 15 dernières années, et a un peu du mal à élargir la focale pour regarder l'ensemble des stratégies possibles. Et c'est vrai que réouvrir le regard par l'histoire, ça permet, sur des questions comme les crises de la dette publique aujourd'hui, de voir qu'il y a déjà eu des crises considérables de la dette publique dans le passé, et la bonne nouvelle, c'est que ça s'est toujours résolu, et l'autre nouvelle, c'est qu'il y a différentes façons de les résoudre. C'est-à-dire qu'on peut, finalement, c'est quand même une question de répartition sociale sur quels sont les groupes qui vont payer l'ajustement, comment, par quel mécanisme. Et donc, voilà, repasser par l'histoire, ça permet de réouvrir aussi l'espace des alternatives. Et c'est vraiment ça la démarche que je suis.
On a voulu commencer cette émission avec Karl Marx parce que votre ouvrage, Capital et idéologie, comporte donc dans son titre deux termes très marxistes. Est-ce que le sens que vous leur donnez, donc au capital et à l'idéologie, est le même, très spécifique, que celui que l'on trouve chez Marx ?
Alors, il y a des points communs et puis il y a quand même des différences importantes. C'est-à-dire, je dis dans la conclusion de mon livre, un peu comme une boutade, mais c'est quand même un peu la réalité. La lutte des classes, c'est bien, c'est important. La lutte des idéologies, c'est encore plus important. C'est-à-dire que la position sociale, la position dans le conflit de classe, comme dirait Karl Marx, ne suffit pas à déterminer entièrement une théorie de la propriété, une théorie de la fiscalité juste, une théorie de l'éducation juste, une théorie du système de frontières, de gouvernement. Donc il reste une indétermination sur comment on organise la société, en particulier après les chocs révolutionnaires. La conflictualité en tant que telle, et en particulier le conflit de classe, ne produit pas une trajectoire unique. Donc en particulier, la révolution bolchévique, elle ouvre par exemple sur tout un ensemble de possibles, et puis finalement il y a une trajectoire qui est choisie. Je ne sais pas ce qu'en aurait pensé Karl Marx, mais la principale différence, pour finir, c'est que moi j'écris évidemment 150 ans après Karl Marx. Et donc ce que j'essaye dans ce livre, c'est de voir ce qu'on peut apprendre et tirer comme leçon des expériences du XXe siècle, à la fois des expériences communistes, des expériences social-démocrates, de la façon dont les sociétés de propriétaires du début du XXe siècle se sont complètement transformées à la suite des guerres mondiales, de la crise des années 30, de la Seconde Guerre mondiale, comment les sociétés post-communistes aujourd'hui sont devenues quelque part le meilleur allié de l'hypercapitalisme, avec un degré d'opacité financière et de refus de la redistribution qui aurait, je pense, amusé Karl Marx. Il y a une certaine ironie dans le fait que les pays qui avaient prétendu abolir la propriété privée se retrouvent aujourd'hui à être les rois des paradis fiscaux et du contournement du système légal national, notamment en Russie. Donc, moi, c'est toute cette remise en perspective historique. Il y a 150 années de plus que Karl Marx, ce qui est important comme différence. Et puis, il y a le fait que mon livre est quand même quelque part plus historique. Enfin, disons, c'est plus facile aussi aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de collecter des données historiques et d'avoir un soubassement empirique dans les archives successorales. Karl Marx utilisait un petit peu des archives successorales britanniques, des données sur les profits des entreprises britanniques, mais c'était quand même assez impressionniste, hein, cette partie empirique de travail. Donc là, enfin, c'est beaucoup plus facile aussi pour moi, pour nous, chercheurs en sciences sociales aujourd'hui, de collecter des quantités de données. Donc voilà, c'est une chance de pouvoir faire ce travail. J'essaye de le faire du mieux que je peux.
Et alors justement, depuis l'apparition du manifeste du Parti communiste par Karl Marx, il y a toute une histoire qui s'est passée. Il y a deux manières de voir cette histoire, Thomas Piketty. La première, sous l'angle du progrès, le fait par exemple que le revenu moyen a été multiplié par 10 depuis le XVIIIe siècle. Et la seconde, sous l'angle des inégalités qui persistent et même qui reviennent depuis les années 80, nous dites-vous. Il faut raconter ces deux histoires à la fois ?
Il faut raconter ces deux histoires. Moi j'insiste sur les dimensions positives, c'est-à-dire j'essaie d'écrire une histoire des sociétés humaines et des régimes inégalitaires qui montre qu'il y a quand même une forme d'apprentissage de la justice dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a des sociétés aujourd'hui qui non seulement ont des espérances de vie, des niveaux d'accès à l'éducation et à la culture sans comparaison avec ceux d'il y a un siècle ou deux siècles, mais on a des sociétés qui sont aussi malgré tout plus égalitaires. C'est-à-dire que même s'il y a eu une remontée des inégalités depuis les années 80-90, on a aujourd'hui des niveaux de concentration de la propriété, des revenus qui sont beaucoup plus faibles qu'il y a un siècle, et tant mieux. Et donc il y a une certaine forme d'apprentissage de la justice dans l'histoire, alors avec des phases de régression, et c'est vrai que depuis les années 80-90, pour différentes raisons, les inégalités sont à nouveau recommencées à augmenter. Mais moi, je pense qu'on peut repartir dans une phase de socialisme participatif, comme je décris dans le livre, qui serait une espèce de prolongement plus ambitieux de ce qui a été accompli dans le cadre de la social-démocratie au XXe siècle, avec toutes ces limitations. Il faut reprendre cette expérience de la social-démocratie au XXe siècle qui était un peu à l'abri, disons, entre capitalisme et communisme, et qui s'est pas suffisamment posé des questions sur la redéfinition du régime de propriété, sur le dépassement de la propriété strictement privée et du capitalisme pur et dur. Voilà, il faut se reposer ces questions aujourd'hui sur la base des expériences notamment du XXe siècle.
Alors on va venir sur la question de la propriété, mais d'abord je voudrais vous faire écouter ça.
Si je vous procure une dot d'1 million, me donnerez-vous 200 000 francs? Ne vous étonnez ni de ce que je vous propose, ni de ce que je vous demande. Sur 60 beaux mariages qui ont lieu dans Paris...
Que faut-il que je fasse?
Presque rien. Faire la cour à une jeune personne qui se rencontre dans des conditions de solitude, de désespoir et de pauvreté, sans qu'elle se doute de sa fortune à venir. Viennent des millions à cette jeune fille, elle vous les jettera aux pieds comme si c'était des cailloux.
Et où trouver une fille?
Elle est devant vous.
Mademoiselle Victorine?
Juste.
Elle n'a pas un sou.
Ah, nous y voilà. Le père Taillefer est un vieux coquin qui est banquier principal associé de la maison Frédéric Taillefer et compagnie. Il a un fils unique auquel il veut laisser son bien au détriment de Victorine. Moi, je n'aime pas ces injustices-là. Si la volonté de Dieu était de lui retirer son fils, Taillefer reprendrait sa fille. Il voudrait un héritier quelconque, une bêtise qui est dans la nature, et il ne peut plus avoir d'enfant, je le sais. Victorine est douce et gentille, elle aura bientôt entortillé son père, et le fera tourner comme une toupie d'Allemagne avec le fouet du sentiment. Elle sera trop sensible à votre amour pour vous oublier. Vous l'épouserez. Moi, je me charge du rôle de la Providence. Je ferai vouloir le bon Dieu.
Le diabolique Vautrin proposant à Rastignac d'épouser Victorine Taillefer pour mettre la main sur son héritage, lui-même se chargeant de faire assassiner le frère de la jeune fille, extrait du Père Goriot de Balzac, une fiction France Culture. Pour vous, Thomas Piketty, l'héritage a retrouvé l'importance qu'il avait au XIXe siècle?
Oui, en masse, oui, en répartition, non. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande partie qui va, disons, sur une large classe moyenne supérieure. Mais c'est vrai que pour une immense partie de la population, pour 50, 60, 70% de la population, on hérite de presque rien. Et donc, il y a aujourd'hui une inégalité face à l'héritage pour pouvoir se loger à Paris. Est-ce qu'on a besoin de consacrer le tiers ou la moitié de son salaire pour se loger ou dans d'autres grandes villes, même si le cas de Paris est particulièrement extrême? La question de l'héritage est redevenue très importante. Au 19e siècle, cette question de la propriété, elle est centrale dans le roman classique du 19e siècle parce que, de fait, cette hiérarchie des fortunes dessine ensuite des schémas de rencontres possibles, des schémas de vie possibles, et le roman a une espèce de capacité d'évocation de ces conséquences de l'argent dans la vie des uns et des autres. Bon, moi, j'ai pas du tout ce talent, donc j'essaye, avec le langage des sciences sociales qui est un peu plus rude, d'explorer ces réalités, mais c'est vrai que je cite beaucoup de romans. Karl Marx disait que c'était en lisant Balzac qu'il avait le plus appris sur l'argent, le capitalisme. Je pense que c'est quelque chose qui est très vrai et qui continue d'être vrai aujourd'hui avec d'autres auteurs. Vous prenez Carlos Fuentes, immense romancier mexicain, qui est un des derniers romans avant de mourir, publié en 2008, La volonté et la fortune. C'est tout récent et c'est une évocation du capitalisme mexicain d'aujourd'hui avec ses violences, le narcotrafiquant, mais surtout ce milliardaire qui ressemble beaucoup d'ailleurs à Carlos Slim, un vrai milliardaire mexicain et qui est le vrai titulaire du pouvoir, finalement, par rapport au piteux président Coca-Cola, qui d'ailleurs s'inspire aussi de Vicente Fox, président mexicain. Mais surtout, dans le roman, Carlos Fuentes arrive à évoquer, un peu comme Balzac, les conséquences de l'argent dans la vie de ces jeunes hommes, de ces jeunes femmes, qui finalement en perdent toute liberté. D'ailleurs, aussi bien pour ceux qui cherchent à accéder à l'argent que pour ceux qui sont surdéterminés par l'héritage dont ils sont porteurs. Donc voilà, là, il y a une force de la littérature face à l'économie, finalement, qui je pense est vraiment centrale et sur laquelle j'essaye de m'appuyer pour nourrir mes interrogations.
Vous parlez du Mexique, je voudrais vous parler de l'Inde, parce que ce qui est intéressant dans l'un des graphiques qui jalonne votre livre, c'est que la montée des inégalités a été particulièrement forte en Inde au cours des 40 dernières années, du moins si l'on prend en compte la part des 10% des revenus les plus élevés dans le revenu national. Comment on explique cette évolution ?
L'Inde a connu, à partir des années 80, 90, disons, a été quand même assez sensible aux sirènes, disons, de dérégulation financière et de compétition fiscale qui sont venues en partie des États-Unis, du Royaume-Uni. Je crois qu'il faut se rendre compte à quel point il y a une responsabilité des pays les plus riches aussi dans ces effets de diffusion idéologique et politique. Et donc l'Inde, qui dans les années 50, 60, avait tenté un modèle, disons, un peu plus socialiste, en tout cas de réduction des inégalités, a connu depuis les années 80 une très très forte augmentation des inégalités qui n'était pas nécessaire pour la croissance, bien au contraire, parce que en fait, pour avoir de la croissance du développement, on a aussi besoin d'investissements dans l'éducation, dans le système sanitaire, qui actuellement reste extrêmement extrêmement inégalitaire. Dans le cas de l'Inde, ce qui est très très intéressant et important pour comprendre la situation actuelle de l'Inde, c'est qu'on a vraiment la rencontre d'un système inégalitaire très très anciens, issus de la société de caste, et puis de l'impact du colonialisme britannique qui a disons rigidifié considérablement des frontières entre groupes sociaux qui existait avant. C'est-à-dire, c'est pas que la société indienne était particulièrement égalitaire ou tendre avant les Britanniques, mais c'est vrai que la façon dont le colonisateur britannique a mis dans des boîtes des recensements coloniaux les différents groupes, ça en leur distribuant des droits et des devoirs pendant 70 ans, de 1871 à 1941, dans des recensements menés tous les 10 ans, a fini par donner une existence administrative à des catégories sociales qui finalement ont pris une réalité qu'elle n'avait pas forcément auparavant. Et les gouvernements indiens issus de l'indépendance de l'Inde essaient malgré tout, de faire face avec les moyens de l'état de droit, donc avec des systèmes de discrimination positive, pour essayer de permettre aux groupes issus des anciennes basses castes socialement discriminées des accès à l'université, à l'emploi public, aux fonctions électives. C'est loin de marcher complètement dans le contexte quand même d'un pays qui a connu une croissance démographique gigantesque, à 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui. Mais il y a des choses, beaucoup de choses à apprendre de cette expérience, y compris pour des discussions qu'on peut avoir en Europe sur les mécanismes d'accès à l'enseignement supérieur avec les sous-représentations criantes de certains groupes sociaux. Et voilà, je pense que ça fait partie des cas sur lesquels j'essaye de mettre l'accent dans mon livre parce que ça peut nous apprendre beaucoup, beaucoup pour l'avenir.
C'était l'objectif de ce livre, Thomas Piketty, de donner davantage d'importance à l'histoire des sociétés coloniales et esclavagistes.
Oui, sortir d'un cadre strictement occidental, qui était, c'est vrai, une des faiblesses de mon livre, Le Capital au XXIe siècle, qui ne sortait pas suffisamment du cadre européen et nord-américain. Et j'ai vraiment voulu, dans ce livre, voilà, élargir considérablement la focale. Le cas de l'Inde, notamment, joue un rôle important dans la réflexion. L'héritage du colonialisme dans les sociétés africaines, le cas du Brésil, le cas de l'Afrique du Sud, la Chine également joue un rôle important. Je pense que c'est très important pour essayer de remettre la question de l'évolution à long terme des régimes inégalitaires dans un contexte plus large que la problématique qui était celle de mon livre précédent, qui était voilà comment les guerres mondiales, qui en fait sont quand même surtout des guerres européennes, ont réduit les inégalités au XXe siècle et dans quelle mesure on remonte aujourd'hui vers des niveaux d'inégalité d'avant 1914. Cette problématique, elle est toujours présente dans ce nouveau livre parce qu'elle reste une problématique importante. Mais disons, vu par exemple de l'Inde, la question des deux guerres mondiales est moins déterminante pour comprendre l'évolution à long terme des inégalités, ou vu du Brésil, ou vu de l'Afrique du Sud. Oui, il y a un côté très eurocentré, d'ailleurs, cette façon d'appeler guerre mondiale, des guerres qui ont été importantes, c'est vrai, pour le monde, notamment à travers l'effet sur les processus de décolonisation. C'est surtout ça, finalement, qui a été la transformation majeure à l'issue des deux guerres mondiales. Et donc, j'essaye, voilà, dans ce livre, de rendre davantage justice à cette dimension transnationale, mondiale, des évolutions inégalitaires.
Et ce qui est intéressant, c'est de constater que si l'on se fie à l'un des graphiques aussi que l'on trouve dans votre ouvrage, les inégalités aux États-Unis et en Chine ont augmenté à peu près au même rythme au cours des 40 dernières années. C'est un aspect qui est assez intéressant à l'heure de la guerre commerciale entre les deux géants économiques que sont les États-Unis et la Chine.
Oui, le réganisme aux États-Unis a conduit à une augmentation forte des inégalités, avec à la fin de la période comme une certaine déception sur la croissance. C'est-à-dire le réganisme était censé, certes, augmenter les inégalités, mais normalement, et ça devait apporter davantage de croissance. Et donc, normalement, les plus pauvres devaient avoir une part peut-être plus réduite d'un revenu national qui, lui, aurait été en forte augmentation. En fait, 30 ans après Reagan, il y a eu une forte déception qui conduit aussi aujourd'hui à la situation aux États-Unis, avec d'un côté une réponse très nationaliste, celle de Trump, consistant à, en gros, accuser les Mexicains, les Chinois d'avoir volé le travail de l'Amérique blanche, et puis une réponse démocrate proposant de revenir à davantage de redistribution, d'investissement dans l'université publique, ce qui me paraît a priori plus prometteur. En Chine, l'augmentation des inégalités peut se justifier davantage par les résultats obtenus en matière de croissance. En même temps, on voit bien que par certains côtés, ça a été beaucoup trop loin. C'est-à-dire que quand vous avez des petits groupes, souvent proches du pouvoir, un peu comme des oligarques en Russie, qui ont acquis une part considérable des entreprises qui ont été privatisées et qui ensuite peuvent se transmettre tout ça sans aucun impôt sur les successions. C'est-à-dire que c'est quelque chose... La Russie, la Chine, après avoir été les pays du communisme étatique, refusant toute propriété privée, sont devenus les pays qui privatisent les trois quarts de ce qu'il y a à posséder dans le pays, tout en autorisant une transmission sans aucun impôt sur la succession. Hong Kong, dont on a beaucoup parlé récemment, c'est quand même le cas unique d'un pays qui est devenu encore plus inégalitaire et même qui a supprimé son impôt sur la succession après être devenu communiste. Enfin, en tout cas, après avoir rejoint la République populaire de Chine et être passé sous le contrôle du Parti communiste chinois. Et aujourd'hui, en Asie, si vous avez une fortune à transmettre, il faut mieux aller mourir en République populaire de Chine que à Taïwan capitaliste ou en Corée du Sud ou au Japon capitaliste, où vous allez avoir un impôt sur les successions qui est monté à 55% récemment au Japon sur les plus grandes fortunes. Donc le fait que ce sont les pays qui ont été communistes qui sont aujourd'hui à 0% d'imposition sur le patrimoine transmis, a quelque chose d'ironique et montre ces effets de basculement idéologique très très excessif, mais sur lequel l'histoire est souvent friande. Et j'essaie dans mon livre de montrer que c'est des choses qu'on voit aussi dans des périodes plus anciennes, sur par exemple le cas de la Suède, qui a été très inégalitaire au XIXe siècle ou jusqu'au début du XXe siècle, avant de devenir très égalitaire à la suite de mobilisations sociales réussies. Et donc c'est toute l'histoire de ces transformations, toujours beaucoup plus rapides que ce qu'imaginent les contemporains. Et ce qu'imaginent souvent les groupes dominants en présence, qui ont toujours tendance à naturaliser les inégalités, à les présenter comme intangibles, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe.
Vous expliquez dans votre livre que la première cause du creusement des inégalités, c'est l'engouement pour la propriété. Je vous propose d'écouter un texte de Rousseau, extrait de son discours sur l'économie politique, lu par Antoine Beauchamp.
Il est certain que le droit de propriété est le plus sacré de tous les droits des citoyens et plus important à certains égards que la liberté même. Soit parce qu'il tient de plus près à la conservation de la vie, soit parce que les biens étant plus faciles à usurper et plus pénibles à défendre que la personne, on doit plus respecter ce qui peut se ravir plus aisément. Soit enfin parce que la propriété est le vrai fondement de la société civile et le vrai garant des engagements des citoyens. Car si les biens ne répondaient pas des personnes, rien ne serait si facile que d'éluder ses devoirs et de se moquer des lois. D'un autre côté, il n'est pas moins sûr que le maintien de l'état du gouvernement exige des frais et de la dépense. Et comme quiconque accorde la fin ne peut refuser les moyens, il s'ensuit que les membres de la société doivent contribuer de leurs biens à son entretien. De plus, il est difficile d'assurer d'un côté la propriété des particuliers sans l'attaquer d'un autre. Et il n'est pas possible que tous les règlements qui regardent l'ordre des successions, les testaments, les contrats, ne gênent les citoyens à certains égards sur la disposition de leurs propres biens et par conséquent sur leurs droits de propriété.
La propriété est le vrai fondement de la société civile et le vrai garant des engagements des citoyens, nous dit Rousseau. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Piketty ? La propriété, protégée par l'État, a permis une certaine émancipation ?
Oui, alors ce que dit Rousseau quand même un peu plus loin dans d'autres passages, c'est que la propriété privée, à condition qu'elle reste d'une ampleur raisonnable, c'est-à-dire que Rousseau insiste sur le fait que des personnes, disons, ne doivent pas être suffisamment opulentes pour pouvoir s'acheter d'autres personnes, et des personnes de l'autre côté ne doivent pas être suffisamment pauvres pour devoir accepter de se vendre à d'autres. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans des rapports de dignité, et dans une propriété privée qui s'accumule dans des proportions raisonnables, oui, bien sûr, la propriété privée peut être un élément d'émancipation individuelle, d'égalité. C'est un élément d'organisation sociale permettant à des subjectivités différentes, des personnes qui peuvent avoir des projets différents, de rentrer en relation les uns avec les autres. À condition que ça ne s'accumule pas dans des proportions complètement déraisonnables.
Et ce que vous dites, c'est qu'on a sacralisé le droit de propriété.
Notamment, oui, au XIXe siècle, un des exemples extrêmes de la sacralisation de la propriété au XIXe siècle que je décris dans mon livre, c'est tout le moment des abolitions de l'esclavage, où en fait on va vouloir rembourser les propriétaires d'esclaves pour la perte de propriété, et cas encore plus extrême, la France va faire payer à Haïti, donc Haïti qui était Saint-Domingue au XVIIIe siècle, qui était la plus grande île esclavagiste française, qui se révolte au début de la Révolution française, qui croit avoir compris qu'il y avait un message égalitaire à Paris, donc il y a une révolte d'esclaves, qui met les propriétaires dehors. L'Assemblée à Paris finit en 1794 par voter l'abolition, mais vraiment à contre-cœur, et finalement l'esclavage sera rétabli jusqu'en 1848 dans les autres îles esclavagistes françaises, Martinique, Guadeloupe, Réunion. Haïti devient indépendant, mais en 1825, quand la monarchie française restaurée accepte finalement de reconnaître l'indépendance d'Haïti, c'est uniquement en lui faisant payer une dette considérable, l'équivalent de 3 années de production d'Haïti de l'époque, on dirait 300% du PIB, ce qui n'est pas remboursable évidemment en quelques années. Les banquiers français arrivent, proposent de refinancer tout ça moyennant intérêt, et cette dette, Haïti va se la traîner comme un boulet jusqu'aux années 1950. C'est-à-dire que pendant presque un siècle et demi, Haïti va devoir repayer à la France, pour rembourser les propriétaires d'esclaves français, le prix de sa liberté. Donc la conception de la propriété qu'on a au XIXe siècle est une conception qui sacralise tellement le droit de propriété. En fait, l'argument de l'époque d'intellectuels dits libéraux comme Tocqueville, qui défend ce type d'approche, Tocqueville dit, voilà, si on remet en cause ce droit de propriété-là, qui, quoi qu'on en dise, a été acquis dans un cadre légal, alors vous allez remettre en cause l'ensemble de l'ordre social. Et donc là, Rousseau aurait eu une position différente. Condorcet, d'ailleurs, avait aussi une position très différente. Il y avait beaucoup de penseurs des Lumières qui n'étaient pas du tout d'accord les uns avec les autres sur ces questions et qui auraient dit « Non, on va, je suis désolé, on va débattre démocratiquement des limites à apporter à la propriété ». Et donc, la petite propriété privée, oui, mais la propriété qui opprime est dans des rapports de domination dont l'esclavage est la forme la plus extrême, mais qui peut prendre d'autres formes, alors cette propriété sacralisée qui s'accumule sans limite, non, il faut lui mettre des limites démocratiquement, dans le cadre de l'état de droit, avec des règles, hein, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, il faut le faire avec des règles, des barèmes d'imposition, de façon transparente, débattue démocratiquement, mais oui, il faut le faire.
On a hérité de cette conception de la propriété qui date du 19e siècle.
Alors, heureusement, au cours du 20e siècle, on en est quand même largement sorti, c'est-à-dire qu'on a développé des outils, par exemple d'imposition progressive des revenus, des patrimoines, qui ont été aux États-Unis notamment, jusqu'à 70%, 80%, 90% sur les plus hauts revenus, les plus hautes successions, des années 20 jusqu'aux années 70-80. Dans les pays européens, la redistribution des fortunes s'est faite aussi dans la violence, dans les destructions des guerres, mais heureusement, l'impôt progressif, le développement de tout un système d'assurance sociale, de droit du travail, d'éducation gratuite. Tout ça a permis de complètement transformer ces sociétés de propriétaires du 19e siècle, de réduire fortement les inégalités entre les années 1900-1910 et 1970-1980. Donc pendant une grande partie du 20e siècle, on a un puissant mouvement de réduction des inégalités qui finalement a été un immense succès, c'est-à-dire que ça a permis d'accroître la mobilité sociale, d'accroître aussi la prospérité générale, parce que c'est par l'égalité, notamment l'égalité dans l'éducation, qu'on a atteint un niveau de croissance, de production, de bien-être qu'on n'avait pas dans les sociétés hyper inégalitaires d'avant 14. Donc on a su revenir là-dessus, mais c'est vrai que ça s'est pas fait de façon paisible. Hein, c'est-à-dire que c'est pas uniquement voilà le suffrage universel mène à la redistribution. Il a fallu des mobilisations sociales extrêmement fortes et parfois des chocs politiques extrêmement importants.
Sur l'éducation justement, dans votre livre Thomas Piketty, il y a un autre vous expliquez qu'il y a un autre discours qui légitime les inégalités, celui qui porte sur le mérite. Le concept de méritocratie a été forgé par un sociologue britannique, Michael Young, en 1958. Il fait paraître L'ascension de la méritocratie, un roman dystopique qui met en scène la domination des élites intellectuelles. Je vous propose d'en écouter un extrait lu par Antoine Beauchamp.
Les agitateurs d'il y a 25 ans furent incités à poser de plus en plus de questions sur la société. De ces discussions débouchèrent les théories modernes de l'égalité avec lesquelles nous nous débattons aujourd'hui. Pourquoi, interrogea-t-il, tel homme est-il considéré supérieur à tel autre ? Car, disait-il, les critères en vertu desquels les hommes jugent la valeur de leurs congénères sont d'une grande étroitesse. Lorsque la Grande-Bretagne était gouvernée par des guerriers qui dépendaient pour leur pouvoir de leur capacité à tuer, le guerrier était l'homme digne. Et les penseurs, les poètes et les peintres étaient traités avec mépris. Lorsque la Grande-Bretagne était gouvernée par des propriétaires terriens, les hommes qui gagnaient leur vie par le commerce, le prêche ou le champ, étaient des espèces inférieures. Lorsque la Grande-Bretagne était gouvernée par des industriels, tous les autres hommes étaient jugés inférieurs. Mais, affirme-t-il, il n'y a jamais eu de simplification aussi excessive que dans la Grande-Bretagne moderne, puisque le pays est dédié à cet unique et primordial but qu'est l'expansion économique, les individus sont jugés seulement en fonction de leur contribution à l'accroissement de la production ou du savoir qui, directement ou indirectement, mènera à cette consommation. S'ils produisent aussi peu que le travailleur manuel ordinaire, ils ne comptent pour rien. S'ils produisent autant que le scientifique dont l'invention est capable de faire le travail de 10 000 personnes ou que l'administrateur qui coordonne des équipes de techniciens, alors, ils font partie des grands.
Que vous inspire cet extrait, Thomas Piketty, vous qui citez Michael Young dans votre ouvrage « Capital et idéologie », qu'est-ce qu'a voulu dire Young ?
Alors, c'est vraiment un livre à lire. Moi, je vous conseille vraiment, tous ceux qui nous écoutent, donc Michael Young, c'est un sociologue britannique, qui publie effectivement en 1958 cet essai dystopique où il essaye d'imaginer comment le Royaume-Uni va évoluer jusqu'aux années 80-90. L'action se termine vers 2020-2030 environ. Et c'est absolument formidable parce que, alors voilà, Michael Young, c'est un sociologue qui a beaucoup travaillé avec les travaillistes, qui en 1945, vous avez le premier gouvernement travailliste avec une majorité absolue, qui bat Churchill aux élections, qui met en place le National Health Service, donc système public d'assurance santé, très grande réforme. Michael Young soutient tout ça, mais il s'inquiète parce qu'il trouve que ses amis travaillistes ne prennent pas assez au sérieux la question de l'égalité éducative. Et en particulier, il trouve que ses amis travailliste, garde en place un système éducatif très stratifié. Vous savez, un système britannique où vous distinguez les grammar school, les comprehensive school, enfin, où les différentes classes sociales ne vont pas du tout dans les mêmes écoles. Et il a l'impression que tout ça ne va pas dans la bonne direction. Et alors, pour essayer de les convaincre des dégâts à terme de cette stratification éducative, il écrit ce roman dystopique où il imagine une société britannique qui, à partir des années 80-90, la science va décider qu'en gros, il n'y a plus qu'un tiers de la population qui est employable et qui sert à quelque chose, et que les deux autres tiers, on peut leur donner quelques allocations de temps en temps, mais ça ne sert pas grand-chose pour l'efficacité productive. Et on a un système de plus en plus stratifié, quasiment à la naissance, où ceux quand même issus des classes favorisées, sauf exception, sont ceux qui vont réussir à accéder à Oxford, à Cambridge, et puis les autres, les enfants des classes populaires, on va les considérer un peu comme quantité négligeable. Et là va se produire une rupture politique très intéressante, qui est que le Parti travailliste, dans ses prévisions, va se scinder en deux groupes. Il va y avoir le Parti des techniciens, qui va être le parti des gens formés, pas complètement au niveau des conservateurs qui, eux, vont à Oxford ou à Cambridge, mais qui sont quand même utiles, disons, pour les plus formés. Et puis un autre parti qui va être le Parti populiste, qui va être un parti de personnes reléguées socialement et qui ne supportent pas cette stratification éducative. Et l'affaire se termine très mal, puisque vers 2020-2030, il y a une révolution populiste. Mmh. Et le sociologue qui raconte cette histoire finit égorgé dans une manifestation. Ce qui est assez formidable dans ce roman d'anticipation, c'est que finalement la réalité a dépassé la fiction. Alors peut-être pas sur la révolte finale, quoique, il faudra voir. Mais en tout cas, sur la réalité politique, la réalité, c'est que le Parti travailliste, qui, au moment où il écrit dans les années 50-60, reste un parti très populaire, un parti de classe ouvrière, est effectivement devenu, pour le coup, le parti des plus diplômés. C'est-à-dire que si on regarde les personnes qui ont les plus hauts niveaux de diplôme, eh bien aujourd'hui, elles votent plus fortement pour le travailliste que même que pour le parti conservateur. Donc ça a été au-delà, d'une certaine façon, de toutes les peurs de Michael Young. Et ça, c'est une interrogation qui joue un rôle important dans mon livre. Je prétends pas avoir l'explication finale complète pour pourquoi ça s'est passé comme ça, mais en tout cas, je mets en évidence le fait que dans l'ensemble des démocraties électorales occidentales, non seulement au Royaume-Uni, mais également en France, mais également aux États-Unis avec le Parti démocrate, également en Allemagne avec le Parti social-démocrate, tous ces partis qui, dans les années 50, 60, 70, parvenaient à rassembler les classes populaires autour d'un programme de redistribution et de réduction des inégalités, eh bien, petit à petit, un phénomène très graduel sur un demi-siècle, sont devenus en fait les partis les plus diplômés. Mmh. Les partis des gagnants du système éducatif et, dans une certaine mesure, des gagnants du système économique.
Donc finalement, ce terme de méritocratie, il est négatif dans la bouche de Young. Alors, il a pour effet de perpétuer, d'accentuer l'inégalité sociale.
Complètement négatif. Alors c'est ça l'ironie aussi de l'histoire, c'est que lui invente ce terme d'une façon complètement négative, en montrant à quel point on va avoir un espèce de discours méritocratique pour justifier la domination d'un petit nombre. Sauf qu'après, ce terme va être repris par certains comme un terme positif, alors qu'en vérité c'est le point extrême d'une certaine vision d'une certaine mode de justification de l'inégalité, bon, qui a des origines très anciennes, hein. C'est-à-dire qu'il y a on voit il y a des très beaux travaux, par exemple d'histoire médiévale de Todeschini que je cite, qui montrent qu'en fait dès l'abolition du servage, dès la fin du travail forcé, vous avez une tentation chez les élites, comme elles ne peuvent plus vraiment posséder au sens strict les plus pauvres, vont essayer de les posséder un peu dans l'ordre du discours, en essayant d'insister sur le fait que les groupes dominants ont davantage de mérite, font preuve de davantage d'efforts, de diligence, de qualité personnelle. Donc on va beaucoup plus insister sur les qualités directes individuelles. Mais ce discours prend une importance beaucoup plus forte à partir de la fin du 19e siècle et plus encore du milieu du 20e siècle. Je cite dans mon livre une autre citation incroyable d'Émile Boutmy, qui est un des fondateurs de Sciences Po en 1872, institution privée, élitiste, joue un rôle très important dans la reproduction des inégalités françaises. Et Boutmy dit, en substance, maintenant que le suffrage universel vient d'arriver et risque de déposséder les classes dominantes, il va falloir montrer que nos mérites éclatants, notamment sur la scène éducative, font qu'on ne peut pas se passer de nous sans créer d'immenses malheurs.
Et donc, mais aujourd'hui, discours, il est fragile, c'est ce que vous nous dites, qu'il ne convainc plus vraiment.
Il ne convainc plus vraiment, mais il continue de jouer un rôle important, et on a besoin aujourd'hui de développer des nouvelles normes de justice éducative. C'est-à-dire que l'arrivée dans l'enseignement supérieur, c'est vrai que les objectifs d'égalité éducative qui avaient cours à l'âge de l'enseignement primaire, secondaire, où il s'agissait simplement d'amener la totalité d'une classe d'âge à la fin du primaire, puis à la fin du secondaire, dans le cadre du supérieur, c'est plus compliqué, parce que vous ne pouvez pas juste dire 100% d'une classe d'âge va aller faire un doctorat, et puis d'abord un doctorat dans quelle matière. Enfin, vous avez forcément une diversité et aussi une certaine stratification persistante qu'il faut réussir à appréhender, néanmoins de façon juste. c'est-à-dire avec des financements qui donnent une chance aux personnes qui ont moins de chance au départ. Or, on fait exactement le contraire. C'est là qu'il y a une hypocrisie dans la façon dont on va mettre trois fois plus de ressources par étudiant sur des filières élitistes qui, en moyenne, reçoivent des personnes ayant des origines sociales plus favorisées. Et donc là, on a besoin de se donner les moyens de définir quantitativement et d'une façon vérifiable des objectifs de justice éducative. Et là, on en est très très loin.
La sarabande d'Handel que vous avez choisi vous-même, Thomas Piketty, pourquoi ce choix ?
Moi, j'aime beaucoup Barry Lyndon, donc film de Stanley Kubrick, que je recommande à chacun de le regarder plutôt plusieurs fois qu'une. Où cette musique revient en permanence pour raconter les succès et les malheurs de Barry Lyndon, jeune paysan irlandais qui s'élève dans la société du XVIIIe siècle et puis qui retombe plus durement que tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est vraiment un film magnifique qui dit beaucoup de choses sur aussi la vie d'un soldat, la vie de joueur, qui montre beaucoup d'existence sociale. Non, il y a Stanley Kubrick, c'est vraiment un talent inouï. Et la musique est magnifique.
Nous sommes toujours sur France Culture. Vous écoutez, entendez-vous l'écho, et nous poursuivons notre discussion sur les inégalités et les discours qui les légitiment en compagnie de l'auteur de Capital et idéologie, Thomas Piketty.
Nulle part, la philosophie libérale n'a connu d'échec plus éclatant que dans son incompréhension du problème du changement. On croyait à la spontanéité. On y croyait jusqu'à la sensiblerie. Et pour juger du changement, on cessait de s'en rapporter au bon sens. Avec un empressement mystique, on se résignait aux conséquences de l'amélioration économique, si grave qu'elle puisse être. Qu'il faille ralentir, si possible, un processus de changement non dirigé dont on estime l'allure trop rapide, de manière à sauvegarder le bien-être de la collectivité, voilà qui ne devrait nécessiter aucune explication détaillée. Ce genre de vérité courante en politique traditionnelle, et qui ne faisait souvent que refléter les enseignements d'une philosophie sociale héritée des anciens, furent effacés au XIXe siècle de la pensée des gens instruits par l'effet corrosif d'un utilitarisme grossier allié à une confiance sans discernement dans les prétendues vertus d'auto-cicatrisation de la croissance aveugle. Si le libéralisme économique ne sut pas lire l'histoire de la révolution industrielle, ce fut parce qu'il s'obstina à juger les événements sociaux du point de vue économique.
Ces mots ont été écrits en 1944 par Karl Polanyi dans son ouvrage « La grande transformation ». Il était lu ici par Marguerite Caton de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Polanyi, économiste hongrois émigré aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il faut lire « La grande transformation » aujourd'hui, Thomas Piketty ? Et surtout, en quoi cet ouvrage a été une source d'inspiration pour vous ?
Parce que Polanyi, donc il est réfugié à New York, il a fui l'Europe et le nazisme et la guerre, un peu comme Hannah Arendt en même temps, et il écrit ce livre publié, donc il écrit entre 1941 et 1944, et en 1944 il écrit ce livre La Grande Transformation pour essayer de comprendre finalement comment on en est arrivé là, c'est-à-dire comment l'Europe entre 1914 et 1944 s'est autodétruite et tombée dans cette fureur nihiliste. Et Hannah Arendt, quand elle écrit en 1951 les origines du totalitarisme, elle se pose fondamentalement la même question. Et tous les deux ont des éléments d'ailleurs de réponse en commun, qui est d'attribuer finalement à ce capitalisme dérégulé du 19e siècle une très très forte responsabilité dans le fait d'avoir déchaîné finalement des forces économiques et des processus d'inégalité sociale que les États n'arrivaient plus à contrôler, des concurrences entre puissances étatiques qui ont mené au choc de la Première Guerre mondiale, et puis ensuite des tentatives plus ou moins désespérées d'essayer de redonner du sens à l'organisation des sociétés au cours de l'entre-deux-guerres avec des formes politiques extrêmement inquiétantes. Ce que je trouve très intéressant, d'ailleurs à la fois chez Polanyi et chez Hannah Arendt, c'est que tous deux font un reproche intéressant et qui reste d'actualité, je pense au parti sociodémocrate de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire que dont ils sont tous les deux assez proches par rapport au parti nazi ou bolchévique ou colonialiste, enfin ils sont plutôt sociodémocrates, mais en même temps ils reprochent au parti sociodémocrate de l'entre-deux-guerres finalement d'être les seuls à ne pas avoir compris que face à une économie monde, face à un capitalisme monde, il faut aussi une politique monde. C'est-à-dire, il faut sortir du cadre de l'État-nation. Et donc, simplement construire des assurances sociales, l'impôt dans le cadre de l'État-nation, c'est très bien, mais ça peut pas suffire. Et alors que toutes les autres idéologies de l'époque, qu'il s'agisse des idéologies colonialistes, bolcheviques, nazies, avaient d'une certaine façon un projet d'organisation mondiale, des projets très hiérarchiques, très, très autoritaires, chacun à sa façon, mais des projets de dépassement du cadre de l'État-nation, les sociodémocrates étaient bien les seuls à pas le penser comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un peu la même limitation des partis sociodémocrates qui ont bâti l'Europe, mais qui ensuite, à partir des années 80-90, ont donné libre cours à une nouvelle vague de libre circulation des capitaux sans aucune régulation publique, sans aucun coordination fiscale, sans aucun impôt en commun, par exemple, au niveau international. Et là, se sont mis à nouveau dans des conditions d'une situation très difficile, parce que une fois qu'on a mis en place les possibilités de pouvoir, en appuyant sur un bouton, transporter sa fortune, qui quand même a été construite sur les infrastructures d'un pays, le système éducatif d'un pays, de pouvoir la balancer ailleurs sans que plus personne puisse suivre votre trace, on se met dans des situations où, voilà, 30 ans plus tard, après on va dire, c'est ballot, on n'arrive plus à savoir qui possède quoi, on va être obligé de tout faire retomber sur les classes moyennes et les classes populaires, qui forcément ensuite se rebellent et dans certains cas demandent un retour aux frontières. Et voilà, il y a beaucoup de points communs. Malheureusement, enfin, l'histoire se répète pas exactement pareil, mais je crois qu'il y a vraiment revenir sur ces écrits de 1944-1951. D'ailleurs, des réflexions fédéralistes qu'il y avait à l'époque pour des constructions fédérales plus exigeantes avec des politiques de réduction des inégalités entre la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, parce que il y avait des réflexions déjà à l'époque sur comment construire la suite. Et finalement, la voie qui a été choisie sur l'Union européenne est une voie, disons, plus hayekienne que polanienne. Et je pense qu'il faut reprendre ses réflexions pour la suite.
Parce que ce que déplore aussi Polanyi dans cet ouvrage, c'est l'autonomisation excessive du champ économique au détriment aussi du politique. Est-ce qu'on en est encore là ?
On en est encore là dans le sens où, si on pense à l'Union européenne, c'est une construction politique fédérale qui s'est construite quand même principalement sur l'idée que la libre concurrence, la libre circulation des biens, des services et des capitaux se suffisait à elle-même. Donc finalement, on a quasiment constitutionnalisé ce que Polanyi précisément reprochait au libéralisme du 19e siècle, c'est-à-dire un désencastrement de l'économie et l'idée qu'on pouvait faire fonctionner en roue libre cette concurrence pure et non faussée sans politique, sans régulation politique, sans budget en commun, sans droit social en commun, sans droit de la propriété des entreprises en commun, sans redistribution, sans impôts progressifs en commun. Et c'est ça qu'il va falloir reprendre, sans doute avec un plus petit nombre de pays et dans l'espoir de convaincre les autres. Mais c'est vrai que c'est la stratégie qu'on a depuis maintenant assez longtemps, consistant à dire il faut attendre d'avoir l'unanimité de 28 pays pour pouvoir sortir de l'unanimité et avancer, est une stratégie qui, de toute évidence, ne va pas fonctionner.
Alors continuons, si vous le voulez bien, notre galerie, notre défilé des économistes. Il y en a un autre, un Britannique, Angus Deaton, qui a lui aussi réfléchi aux inégalités. C'est ce que nous explique l'essayiste Nicolas Bouzou.
Angus Deaton rappelle bien que l'évolution économique et même la croissance économique provoquent des inégalités. On voit bien, à partir du milieu du 19e siècle, on a une explosion des inégalités, tout simplement parce que vous avez beaucoup de gens qui sortent de la pauvreté, mais vous avez aussi des gens qui restent dans ces trappes à pauvreté. En fait, Angus Deaton explique bien que la question des inégalités est souvent mal posée. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont dire, les inégalités, c'est pas grave, au fond, ça fait partie du processus capitaliste. Et puis vous avez des gens qui vont vous dire, au contraire, il faut systématiquement combattre les inégalités. Angus Deaton montre qu'il y a deux types d'égalités. Il y a des inégalités qui peuvent être positif. Il est normal que des gens gagnent plus d'argent que d'autres, et à la limite, ça peut même donner envie aux personnes les plus modestes de rattraper les personnes qui gagnent de l'argent, et ça peut leur donner un aiguillon, donc ça c'est positif. Puis ça peut être extrêmement négatif, parce que les personnes qui ont beaucoup de revenus, qui ont beaucoup de patrimoine, peuvent en quelque sorte vouloir verrouiller leurs revenus et leur patrimoine, trouver des rentes, exiger des rentes de la part des gouvernements, et là pour le coup, ça bloque l'évolution économique et ça empêche les pauvres de devenir riches.
Il y a de bonnes et de mauvaises inégalités, Thomas Piketty ?
Oui, c'est sûr. Moi, simplement, je me méfie. Trop souvent, on va après utiliser ce type de discours pour justifier n'importe quel niveau d'inégalité. C'est-à-dire il faut regarder historiquement, et moi c'est ça ma démarche. Comment fait-on pour savoir à partir de quel moment les inégalités sont excessives? Essayons d'abord de les mesurer dans l'histoire, de comparer différentes sociétés. Donc concrètement, le réganisme dans les années 80, qui a eu un impact considérable dans le monde, a fait une promesse de dynamisation de la croissance en acceptant une certaine remontée des inégalités. Et ce discours, d'un point de vue strictement théorique, aurait pu être vrai. C'est-à-dire qu'il y a, bon, c'était un discours aussi qui reposait sur toute une vision de l'histoire, consistant à dire voilà, les États-Unis et le New Deal rooseveltien, on a été trop loin dans la réduction des inégalités, on a ramolli les entrepreneurs anglo-saxons, on s'est ramolli nous-mêmes dans notre lutte contre le communisme, on est presque devenus presque communistes nous-mêmes. Enfin, il y avait toute une vision de l'histoire des États-Unis qui a essayé de porter à Reagan, et donc il a dit voilà, on va diminuer les impôts sur les plus riches, ça va peut-être augmenter les inégalités, mais pour finir, on va tellement dynamiser la croissance que tout le monde va en bénéficier. Le problème, c'est que 30 ans plus tard, en fait, la vérité, c'est que le taux de croissance de l'économie américaine, en fait, a été divisé par deux. C'est-à-dire qu'on était entre 1950 et 1990 avec un revenu national par habitant qui augmentait à un rythme de 2,2% par an. On est tombé à 1,1% par an entre 1990 et 2020. Donc là, pour le coup, il y a eu une instrumentalisation d'un discours qui, d'un strict point de vue de bon sens, aurait pu marcher, mais on a vu plus de milliardaires, plus de personnes, alors parfois mettant des brevets sur des connaissances qui étaient d'ailleurs pas forcément les leurs, qu'ils n'avaient pas inventé eux, c'est-à-dire qu'on se met à tout breveter, y compris des choses qui ont été inventées par la recherche publique, on va s'approprier des livres qui ont été écrits par d'autres, on va s'approprier, vous voyez, si on s'admettait la propriété privée sur le théorème de Pythagore, aussi on augmenterait la capitalisation boursière en faisant payer comme ça à chaque élève l'utilisant, sauf qu'en fait la richesse sociale évidemment n'aurait pas augmenté d'un iota, puisque le théorème de Pythagore il existe depuis 2500 ans. Donc vous voyez, il y a une attitude consistant à mettre des droits de propriété privée sur des choses qui en fait avaient une origine sociale. Car la propriété, elle a toujours des origines sociales. C'est-à-dire que personne ne peut arriver comme ça et va inventer tout seul. Bill Gates, il n'a pas inventé tout seul l'ordinateur. Il s'est appuyé sur des connaissances publiques, des recherches publiques. Et donc ce qu'on a beaucoup observé depuis les années 80, c'est des appropriations privées de connaissances publiques et qui finalement ont contribué à la montée des inégalités, mais n'ont absolument pas contribué à plus d'innovation au total et plus de croissance au total. Et donc là, voilà, il serait temps d'apprendre de cette période historique. Moi, j'essaye de montrer que, à la lumière de l'histoire, si on reprend tous les éléments dont on dispose, la très forte réduction des inégalités qui avait eu lieu jusqu'aux années 70-80 a plutôt été un grand succès. Et y compris les formes de fiscalité très progressives avec des taux montant à 70-80-90% aux États-Unis sur les plus revenus, les plus hauts succession des années 1920 aux années 70-80, eh bien si on reprend tout ça, on reprend l'histoire, moi j'essaye d'apporter beaucoup d'éléments précis, eh bien je pense que ça a plutôt bien marché et qu'il faut essayer de reprendre, d'examiner la suite en acceptant de faire cet inventaire du passé, de revenir dans les données. Alors,
Est-ce qu'il faut aller plus loin?
Je pense qu'il faut revenir à cela. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire que parmi les limitations de ce qui a été fait au cours du XXe siècle, il y a aussi toute la question du partage du pouvoir dans les entreprises. Il y a eu des tentatives dans les pays germaniques et nordiques d'avoir, par exemple, la moitié des droits de vote pour les représentants des salariés, ce qui est quand même assez révolutionnaire.
Ce qu'on appelle la cogestion.
Voilà, ce qui est assez révolutionnaire par rapport à la conception de la propriété du 19e siècle, puisque ça veut dire qu'ensuite, si en plus de ça, les salariés ont une participation minoritaire dans le capital, 10 ou 20%, ils font basculer l'ensemble de la majorité. Et à l'inverse, des actionnaires qui pourtant sont majoritaires au capital perdent leur majorité. Donc je peux vous dire que les actionnaires allemands, au départ, quand ils ont pris ça dans la figure, dans les lois de cogestion des années 50, ils étaient complètement contre. Et d'ailleurs, la constitution allemande de 1949 a été écrite de façon à donner une définition sociale de la propriété qui a permis ces transformations. Finalement, ça a été plutôt un assez grand succès, ça a permis d'impliquer davantage les salariés dans la stratégie de développement des entreprises. Mais il y a eu des limites, c'est qu'à la fin, bon, c'est la moitié, mais c'est la moitié moins une voix. Donc à la fin, c'est quand même les actionnaires qui gagnent. Je pense qu'il faut aller plus loin dans cette direction. On peut imaginer, je le discute dans mon livre, de plafonner les droits de vote des actionnaires individuels. C'est-à-dire à l'intérieur des 50% des droits de vote pour les actionnaires, une personne, à partir d'une certaine taille d'entreprise, ne devrait pas avoir, par exemple, 10% des droits de vote. C'est-à-dire, je pense qu'on a besoin, on vit dans des sociétés très complexes, très éduquées, et l'idée qu'une personne, parce qu'elle a fait fortune à 30 ans, éventuellement, elle a eu des bonnes idées, elle a eu aussi de la chance, mais qu'importe, l'idée qu'une personne comme ça va pouvoir continuer de prendre seule toutes les décisions à 50 ans, à 70 ans, à 90 ans, dans des entreprises qui comportent des milliers, parfois des centaines de milliers de salariés.
C'est l'idée de rémunérer le risque.
Très bien de rémunérer le risque, sauf que collectivement, les décisions qu'on a à prendre dans des entreprises qui ont des dizaines de milliers, des centaines de milliers de salariés sont des décisions tellement complexes qu'aucune personne humaine aussi maligne soit-elle à l'âge de 30 ans, vous voyez, ne va pas avoir la compétence juste pour prendre toute seule ses décisions. Donc on a besoin d'un partage du pouvoir, d'un partage de délibération. On a besoin de sortir de cette espèce d'idéologie monarchique économique qui est complètement à contre-temps. D'ailleurs, c'est amusant que nos amis les techno-milliardaires souvent vantent la nécessité d'une société horizontale, du partage, etc. D'ailleurs, ils nous disent souvent, mais vous savez, on va donner toute notre fortune. Bon, sauf qu'ils le donnent à des fondations dont ils sont eux-mêmes les présidents, dont leur conjoint est le vice-président, dont toute la famille est au board et dans lesquelles ils vont continuer de siéger jusqu'à l'âge de 90 ans. Donc c'est une façon de garder le pouvoir qui est humaine, hein, moi je ne leur en veux pas, mais collectivement, je ne pense pas que ce soit un système qui soit adapté à la réalité de nos sociétés où on a besoin de la participation de tous. On a besoin de la participation économique, d'une certaine forme de démocratie économique. Et je pense que pour ça, il faut s'appuyer sur ce qui a déjà fonctionné au XXe siècle, sur l'implication des salariés dans certains pays, et aller plus loin.
Et aussi la taxation du patrimoine dont vous parlez. Mais alors pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise idée, selon vous, Thomas Piketty, de moins taxer le capital financier que le capital immobilier, décision qui a été prise par Emmanuel Macron ?
Oh bah là c'est assez fou comme décision. C'est-à-dire que si vous avez, enfin je vous donner un exemple, si vous avez 2 millions d'euros, voilà, quand même un assez gros patrimoine, vous l'utilisez pour construire une maison ou pour construire un immeuble, donc vous allez créer de l'emploi en France pour construire tout ça, hop, vous êtes taxé non seulement à la taxe foncière mais à l'impôt sur la fortune immobilière. Vous prenez ces mêmes 2 millions d'euros, vous les placez dans un portefeuille financier à l'autre bout du monde. Hop, vous payez ni taxe foncière, ni impôt sur la fortune immobilière. Alors, au moins avant, avec l'impôt sur la fortune, vous payez quand même un peu l'impôt sur la fortune. Maintenant, c'est plus rien du tout.
Mais c'est aussi de l'argent qui peut être réinvesti dans l'économie.
Bah, sauf que là, dans l'exemple que je vous donne, c'est, pour le coup, vous pouvez l'investir partout où vous voulez dans le monde, dans n'importe quelle spéculation financière. Vous êtes complètement exonéré. Donc, vous voyez, il y a une espèce de confusion mentale. Enfin, l'idée que c'est pas parce qu'un investissement est financier qui crée plus d'emplois qu'un investissement immobilier. Vous voyez, ça tout dépend après de comment utiliser l'argent. Donc là, si vous voulez, quand vous sortez des arguments qui, de toute évidence, ne tiennent pas la route. Enfin, on voit bien sur cet exemple à quel point ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous avez en tête ? Est-ce que par hasard, l'objectif serait pas de s'exonérer d'impôts ? Il se trouve que les plus hauts patrimoines sont à 90% financiers. Donc, est-ce que par hasard, le but, c'était pas de supprimer, en fait, purement et simplement l'impôt sur la fortune, sans le dire, et en essayant de faire croire qu'on gardait un petit bout. Donc
Mais le plus souvent, l'investissement immobilier, il est hérité, il passe dans l'héritage, alors qu'on peut considérer qu'une partie des finances, effectivement, ne sert pas à l'économie réelle, mais une autre, oui, tout de même, Thomas Piketty.
Alors, il n'y a pas de lien entre est-ce que un investissement immobilier ou un investissement financier est plus hérité, pas hérité, crée plus d'emplois, pas crée plus d'emplois. Il faut s'intéresser au montant total de la fortune, il faut faire circuler la fortune en général. Moi, je voudrais rappeler qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, vous avez des pays comme par exemple l'Allemagne, le Japon, qui ont eu des systèmes d'imposition allant jusqu'à 70, 80, 90% sur les plus hauts portefeuilles financiers et immobiliers aussi. Mais ça aurait été ridicule si on s'était limité à l'immobilier à l'époque, puisque les plus hauts patrimoines, comme aujourd'hui, étaient principalement financiers, pour réduire très rapidement la dette publique. C'est ça qui a permis d'avoir, dans les années 50-60, ça a été un immense succès. C'est-à-dire que c'est ça qui a permis à ces pays d'investir dans les infrastructures, dans l'éducation, dans la croissance. Donc, trop de concentration du patrimoine et de devoir repayer pendant des dizaines d'années, là en l'occurrence des intérêts de la dette publique, alors qu'il y a d'autres problèmes à résoudre aujourd'hui. Donc à l'époque, l'enjeu c'était la reconstruction, mais aujourd'hui il y a d'autres enjeux. Les enjeux sont quels sont-ils? C'est d'abord investir dans la transition énergétique. On a un besoin d'investissement pour résoudre la crise du climat. Attendons pas d'avoir des catastrophes climatiques. Alors peut-être qu'il voilà, il faudra attendre que les effets soient tellement visibles pour qu'on sorte de cette logique de sacralisation des inégalités, des fortunes des milliardaires, quel que soit le nombre de zéros.
Alors qu'on devrait... l'initiative européenne justement, ce Green Deal.
Cela, c'est vraiment du baratin. C'est-à-dire que les sommes mobilisées sont par rapport à ce qui a été mobilisé pour sauver le secteur bancaire, vous savez, pour sauver les banques et les banquiers, la Banque Centrale Européenne a créé plus de 3 000 milliards d'euros, c'est-à-dire le bilan de la Banque Centrale Européenne est passé d'à peine plus de 1 000 à plus de 4 000 milliards d'euros en 10 ans. Ursula von der Leyen, elle nous dit, on va peut-être créer sur 10 ans un fonds de 70 milliards d'euros ou de 100 milliards d'euros. Donc, vous voyez, on est sur des montants qui sont 40 fois plus faibles, 30 fois plus faibles que ce qui a été fait pour sauver le secteur financier, alors que la question du climat, de l'investissement dans les nouvelles technologie énergétique, l'investissement dans l'université. Vous savez, tout le monde aime beaucoup en Europe Erasmus. Très bien. Erasmus, c'est 2 milliards d'euros par an, alors que les intérêts de la dette qu'on verse sur la dette, c'est 200 milliards par an. Et pourtant, les taux d'intérêt sont faibles. Hein. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça pourrait être quand le jour où ils vont remonter. Moi, je pense qu'il faudrait mieux inverser ces priorités. C'est-à-dire que là, il y a quand même un manque de... Voilà, il faut essayer de prendre quelles sont les questions importantes pour les décennies à venir. Et ce que nous montre l'histoire, c'est que parfois, il faut savoir inverser les priorités par rapport à notamment ces questions de dette publique.
Et face à ces questions importantes, quel est justement le rôle de l'économiste, selon vous, Thomas Piketty? Est-ce qu'il a pour vocation d'être le conseiller du prince?
Oh non, moi je travaille d'abord pour les citoyens, pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions, qui ont besoin de se réapproprier ces questions. Donc moi je me vois d'abord plutôt comme chercheur en sciences sociales que comme économiste, parce que je pense que les frontières entre histoire économique, économie historique, sciences politiques sont pas du tout aussi claires que ce que prétendent certains économistes. Je crois que ce qu'on peut faire de mieux comme chercheur en sciences sociales et en économie historique, c'est d'abord de collecter des sources, d'essayer de les présenter de la façon la plus claire possible, de proposer des interprétations sans fermer le débat, parce que toutes les interprétations que je propose sont sujettes à amélioration quand des nouvelles données, des nouveaux raisonnements, des nouveaux cheminements individuels viendront donner leur point de vue. Donc voilà, je crois qu'il faut être modeste, il faut essayer de présenter ces éléments. Et finalement, c'est ce qui compte, c'est la réappropriation citoyenne de ces questions. C'est-à-dire, je pense qu'une partie de notre désarroi démocratique contemporain vient d'une autonomisation excessive du savoir économique et financier par rapport aux autres sciences sociales et par rapport au débat citoyen en général. Donc il y a une responsabilité de tous les économistes qui ont prétendu avoir développé une science tellement scientifique que personne d'autre qu'eux peut comprendre, ce qui est évidemment une immense blague. Mais il y a aussi une responsabilité de tous ceux qui les ont laissés faire. C'est-à-dire, moi, ce livre, c'est aussi un appel aux citoyens, un appel à tous mes amis chercheurs en sciences sociales, historiens, sociologues, politistes, pour s'emparer de ces objets économiques. Question de dette publique en Europe, de transformation de l'Europe, on va pas résoudre ça uniquement avec des économistes qui ont souvent des points de vue très conservateurs sur ces questions. On a besoin d'historiens, de politistes.
Et justement, quel conseil vous auriez envie de donner à ces jeunes économistes, à ces jeunes chercheurs en sciences sociales?
Moi, de pas avoir peur de s'approprier ces questions économiques qui sont pas des questions techniques. C'est-à-dire que essayer de rassembler des données, de faire des séries historiques, faire des graphiques, ça, c'est pas, on n'est pas en mécanique quantique, on n'est pas en train d'essayer d'envoyer une fusée sur la Lune. C'est des choses qui sont pas compliquées. Et donc, il faut pas abandonner ces questions à des personnes qui se vantent d'avoir développé des outils mathématiques, économétriques très sophistiqués qui souvent ne servent pas forcément à grand chose. Et il faut essayer de faire des choses simples avec des données dont on questionne aussi les conditions de construction. C'est-à-dire, c'est là qu'on a besoin vraiment d'un regard d'historien, de sociologie historique qui va s'interroger sur comment, par quel miracle, d'une certaine façon, des sources nous permettent de comparer des sociétés très différentes. Il y a toujours beaucoup de limites à ces comparaisons, mais on a besoin justement d'un regard critique sur les sources, leur construction, les conditions institutionnelles dans lesquelles elles se forment, pour pouvoir mettre en comparaison des sociétés, des situations historiques qui parfois peuvent être mises en comparaison, souvent ne peuvent pas l'être, et il faut aussi pouvoir le dire quand elles ne sont pas l'être. Et voilà, on a besoin de cette intelligence des sciences sociales, et moi, j'espère, je pense.
C'est un hymne aux sciences sociales.
Oui, je pense que beaucoup de chercheurs, moi, je prends d'ailleurs beaucoup de plaisir dans ce livre qui est Capital et idéologie à raconter beaucoup de sciences sociales. C'est-à-dire, je prends beaucoup plus que dans mon livre précédent. Je prends beaucoup de plaisir à prendre des ouvrages, des livres de mes collègues, Mathieu Arnoux, Nicolas Barrère, Catherine Apister. Enfin, je peux pas tous les citer là. Raph Bloffarb sur la Révolution française. Enfin, beaucoup d'auteurs vraiment qui ont fait des choses formidables. Enfin, en tout cas, qui moi m'ont beaucoup aidé à faire des progrès dans mes réflexions sur ces questions. J'essaye de les synthétiser en quelques pages, de donner envie de les lire. Et oui, c'est un livre qui est à sa façon une sorte d'hymne aux sciences sociales.
Et ça nous a également beaucoup intéressés. Un grand merci, Thomas Piketty,
merci
d'être venu dans nos studios aujourd'hui. On va continuer à parler de capitalisme la semaine prochaine avec une série spécialement dédiée à cette forme particulière de capitalisme qui est le néolibéralisme. Et demain, c'est l'ancien économiste en chef du FMI que nous recevons, Olivier Blanchard. Il sera avec nous depuis les studios de la NPR à Washington. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.